Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Dernier jour de la semaine, magnifique vendredi avant le week-end. On va passer 2 heures en votre compagnie, on vous remercie encore d'être aussi nombreux à nous écouter. Appelez vos amis, on sera encore plus ce soir parce que émission de folie comme d'habitude pour finir cette fabuleuse semaine et surtout lancer une semaine prochaine incroyable. Il faudra pas rater Roten sans flamme tous les jours à partir de 18h la semaine prochaine. Il y a la Ligue des Champions, là il y a l'Europa League, ça va être génial. Mais déjà ce soir ça va être beau. Benoît Boutron avec nous. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah ça va, super.
Oui, comme tous les vendredis on est gâté. On a un autre champion du monde, il est là, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Salut Manu.
Ça va,
Manu?
Ça va bien?
Ouais.
Tu te prépares un peu? Comment tu prépares tes matchs d'ailleurs? Comment tu prépares tes matchs de Coupe d'Europe?
En regardant les matchs, à l'instinct.
Il n'y a pas de fiche, genre
non,
de
non, 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 non. Je regarde les matchs, c'est tout. Enfin, moi, il n'y a que le jeu qui m'intéresse.
À l'instinct. Avec
après, les stats, c'est Jérôme, mon binôme, qui est en charge de les sortir.
Exactement.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Je m'en fous de si
Jérôme. Le Black Cap?
Oui, Jérôme le Chanois.
Non, parce que depuis la qualif, justement. Et
un Black Cap?
Non.
Benoît, donne-nous le programme, parce que sinon on va parler du Black Cap.
Roten sans flamme autour de la 31e journée de Ligue 1, multiplex spécial course à l'Europe à 19h avec nos correspondants Lyon, Monaco, Rennes, Brest notamment à l'honneur. À 19h30, tiens justement, on parlait de Coupe d'Europe, la suite de notre feuilleton, la France a du talent. Marseille et le PSG en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est la suite du feuilleton autour des exploits marseillais et parisiens. On va recevoir Abdou Diallo, Jérôme.
Ouais.
Ça va te replonger dans tes années de commentateur. On va revenir sur l'épopée 2019-2020 jusqu'à la finale de Ligue des Champions pour le PSG.
Franchement, on a oublié cette période Covid, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait mal quand même.
C'est vrai.
Mais soyez là parce que franchement, Abdou Diallo est un des footballeurs les plus intelligents.
Exactement. Il exprime très bien.
Il est passionnant. Sinon, je ne serais pas là, hein, Manu. Hein, bien sûr. Mais lui, il est très très intéressant.
Tiens, on parlait de commentaires sportifs à 18h30. Mm-hmm. Faites entrer l'accusé. Habib Bey sera accusé de manquer de sincérité. L'entraîneur du Red Star.
Elle est pas bonne, votre question.
Consultant Canal Plus.
Tu sais qu'hier, j'ai.
C'était l'invité de Génération After hier. Il est revenu sur ses commentaires.
J'ai vomi. J'ai appelé Vaïd, j'ai vomi. Vomi.
Et commence pas à te défausser, Manu.
Mais votre question, elle est pas bonne.
Non, évidemment que.
On commence pas un procès à 18h.
Déjà,
j'aurai une question à poser justement.
Ah,
bah,
donc toi, tu poses des questions maintenant.
J'ai pas peur de toi. Bah, vas-y, pose-la ta question.
On va attendre.
Rendez-vous 18h30.
Garde ton énergie.
Et puis, Jérôme, c'est le grand jour. On est le 26 avril.
Eh ouais, on est comme ça.
Écoute.
On peut remporter jusqu'à 26 000 euros.
Et pourquoi?
Il y a pas de vendredi 13 en avril. Ouais. Mais nous, on a choisi un vendredi 26. Deux fois 13.
Je savais pas que tous les mois, il y avait un vendredi 13. Mais bon, écoute, je l'apprends.
Grâce au ticket RMC, si vous voulez vous inscrire, vous envoyez chance par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Mais tout de suite, messieurs.
Chance. Comment ça s'écrit?
C-H-A-N-C-E.
Pour Pascal Olmeta.
C-E. Je crois qu'il écrit comment, chance?
Avec un S déjà. Il y a deux S, ça.
Bon, profitez-en, l'un d'entre vous sera avec nous et pourra tenter de gratter un ticket avec nous. Messieurs, on attaque sur l'OM à Marseille, c'est le début de la grande bavure.
Nous sommes à Marseille, en Provence.
J'ai signé 100 jours, on m'a dit « Est-ce que tu te sens capable de ?» J'ai dit « Ok, je viens. »
Aujourd'hui, les commissaires priseurs organisent une journée d'expertise gratuite pour les Marseillais.
Ah, tout ça c'est compliqué du côté de l'OM, on s'entend même pas entre Veretout et Aubameyang.
Curieux de connaître la valeur de leur trésor.
Les Marseillais, on les voit techniquement parfois,
C'est pas au niveau comme dirait Kevin là-dessus, je suis d'accord.
En plein cœur de la cité phocéenne.
Et là, Luis Enrique, bien joué, ouais, pas pour longtemps, parce qu'il a voulu donner ce ballon à Aminarit.
D'expertiser des objets pour le moins exotique.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Mais c'est vrai, bien souvent j'oublie la distance.
On l'embrasse à Patrick Fleury.
Oui. Il nous écoute souvent.
Ah, il nous écoute. Ouais. Celle-là, elle est belle, hein, cette chanson. C'est un chanteur fabuleux.
Jamais entendu.
Fabuleux. Patrick Fleury?
Cette chanson-là, jamais entendu. Ça
celle-là, écoute-la, écoute.
Sur le table, les yeux de mon rêve était trop beau.
On a deux crooners ce soir.
Écoute, ferme les yeux.
Non, je ne chante pas.
Non, j'écoute Patrick Fiori.
Bon,
on l'embrasse.
Jérôme, Manu, alors que l'OM abat l'une de ses dernières cartes dans la course à l'Europe dimanche face à Lens, les questions autour de la saison prochaine sont nombreuses. L'enjeu surtout, c'est l'identité du futur entraîneur. Jean-Louis Gasset ne prolongera pas l'aventure sur le banc. Le nom de Paulo Fonseca, entraîneur de Lille, revient beaucoup. Nos infos, RMC Sport sur ce dossier. Marseille s'intéresse à lui depuis deux ans. Il est sur la shortlist de la direction. Il est très courtisé, notamment par des clubs anglais. Il se concentre, lui, personnellement, sur la fin de saison avec Lille. Il gérera son avenir ensuite. Le LOSC aimerait toujours le faire prolonger. Handicap pour les dirigeants marseillais, la saison agitée que vient de vivre l'OM, ça n'encourage pas forcément les entraîneurs à tenter l'aventure. Marseille qui suit également d'autres profils, le nom de Franck Haise revient notamment lorsqu'on questionne les dirigeants marseillais. L'OM doit-il tout chambouler la saison prochaine? Supporter marseillais 32-16, si vous voulez participer au débat. Jérôme, est-ce qu'on doit tout changer à Marseille?
Bah déjà, je retire pas ce que j'ai dit en début de semaine, c'est-à-dire que si Jean-Louis Gasset fait un miracle, et le miracle c'est de gagner l'Europa League, il aura le droit, moi j'espère, le droit de choisir s'il veut continuer ou pas, et ça serait une grave erreur de sa part de dire stop. Quand tu gagnes un titre comme ça, ça sera le deuxième titre européen à l'Olympique de Marseille, et je leur souhaite, il faudra qu'il reste. Tu peux pas lui montrer la porte de sortie alors qu'il t'a amené un des plus beaux titres de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est la première chose. Mais pour moi, réussir à faire ça, c'est un miracle. C'est miraculeux. Donc, les miracles, j'ai du mal à y croire, et vous le savez, j'ai été pessimiste sur le quart de finale, j'ai mangé mon chapeau parce qu'ils sont passés. Ça a été difficile, mais je le mange. Maintenant, en effet, je vois l'Atalanta beaucoup plus forte que l'Olympique de Marseille, à plein de niveaux, mais peu importe, ils peuvent encore faire l'exploit. Mais s'il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire avec cette victoire, je parle bien d'une victoire, hein, je ne parle pas juste d'une finale où tu perds en finale, comme ça a été le cas avec Rudy Garcia il y a quelques années. Donc, si ce n'est pas le cas, bien sûr qu'il faut tout changer, mais tout tout changer. Les joueurs, sur quel joueur, Manu, aujourd'hui tu vas investir en te disant tiens, avec lui on va gagner un peu de stabilité, un peu d'avance, ouais, et on va être régulier. Quand tu vois le championnat pourri de l'Olympique de Marseille, parce qu'il faut pas avoir peur des mots, je vois pas comment les joueurs d'un seul coup ils vont se transformer. Pour moi, c'est pas des joueurs, la plupart, hein. Alors il y a peut-être des exceptions, mais la plupart sont pas au niveau d'un Olympique de Marseille qui doit être ambitieux et qui doit finir dans les trois meilleures équipes du championnat. Ça c'est mon avis.
Mais d'accord, ça c'est des paroles, mais derrière les paroles, ouais, il faut des gestes, et ça se base sur des faits, et aujourd'hui les faits au sein de l'OM, ils sont pas reluisants, notamment sur le plan financier. Donc moi je veux bien, et imaginons qu'à la fin de saison ils n'aient pas de Champions League avec les rentrées financières. Comment tu fais justement pour tout changer? Je comprends pas.
Bah, parce tu prends des risques.
Longoria, je veux dire, il a fait des miracles pendant quelques années, puis là il s'est planté sur les mercato, ça marche plus. Donc parce que justement, malgré l'argent qu'ils ont dépensé, ils ont attiré des joueurs qui n'étaient pas, à mon avis, des profils intéressants pour l'Olympique de Marseille. Donc la question que je te pose, Jérôme, c'est je veux bien tout changer, mais avec quoi? Et comment tu fais?
Avec quoi? Ben moi, on a fait le débat sur le propriétaire, sur McCourt, où moi je l'ai même accusé. Quand je vois, alors attention, hein, il a une belle fortune. C'est pas le plus fortuné au monde, on est d'accord, mais il a les moyens d'investir plus qu'il fait sur les dernières années.
Tout ce qu'il a investi déjà, il a perdu de sa propre poche.
Alors s'il veut pas, et il a ses raisons, et moi je vais pas l'obliger à mettre, dans ces cas-là, qu'il vende officiellement le club et qu'il mette en vente officiellement, plutôt que nous faire croire que tu veux continuer à t'investir à Marseille, avoir de la stabilité, ça sera pas possible. Et pour moi, s'il est amoureux de l'Olympique de Marseille, comme il dit, et il a envie de mettre le club, lui, en tant que propriétaire, très haut dans la hiérarchie du championnat de France, et ben il va falloir qu'il prenne le taureau par les cordes, avouer que tu t'es trompé sur plein de profils, et tu l'as dit. Dernièrement, le mercato a été horrible. Là, le mercato d'hiver, j'en parle même pas, parce que il y a des joueurs, il y avait pas un rond. Donc ils ont fait
Mumbagna, ils ont fait des joueurs là,
du bricolage, comme des joueurs comme Unai qui a fini dans les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est du bricolage et pas au niveau. Comme Harit qui a les clés du jeu. Je pourrais t'en faire plein. Donc c'est pour ça que Manu, je te dis que si tu as pas dans la tête l'envie de tout chambouler, on est en termes d'effectifs, mais aussi en termes d'entraîneur, s'il ne gagne pas l'Europa League.
Bah, entraîneur, tu seras obligé. De toute façon, ils partent du principe que Gasquet va s'arrêter.
C'est ce que je te dis.
Donc, quoi qu'il arrive,
c'est ce que je te dis. Sauf que là, je donne la parole.
La priorité, c'est de trouver un entraîneur compétent.
Et là, je donne la parole à Manu juste après. Moi, ça me dérange, si tu veux, qu'aujourd'hui, il y a des bruits qui sortent comme quoi Fonseca, pourquoi pas. Parce que imagine juste, ils sont encore dans la campagne européenne, là, sur les demi-finales, qu'ils passent et qu'ils tombent d'accord avec Fonseca. D'accord?
Et si
Jean-Louis Gasset gagne l'Europa League?
La différence, c'est que Gasset connaissait la mission au départ. Mais, même s'il gagne un trophée.
Mais c'est respectueux.
Il connaît la mission.
Le respect dans le football.
Il a une mission de 100 jours, Jérôme.
Alors, autant, je me le suis fait, Jean-Louis Gasset, vous savez pourquoi maintenant. Et je pense qu'il n'est pas armé et les compétences pour entraîner un Olympique de Marseille très ambitieux. Autant, je peux vous dire, s'il gagne une coupe comme l'Europa League avec cet effectif-là, mais c'est plus qu'un magicien, Jean-Louis Gasset. Et donc, il aura le droit de continuer.
Ouais, mais Jérôme, tu peux aussi partir par la grande porte quand t'es Gasset avec l'expérience que t'as et te dire, j'ai mené Marseille à une victoire.
Mais partir par la grande porte à 70 ans. Il a jamais entraîné un grand club. C'est la chance de sa vie.
Moi, je te retourne la question. Quand tu as gagné l'Europa League avec l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu peux faire de mieux la saison d'après?
De mieux?
Bah oui.
De qualifier l'équipe en Ligue des Champions.
Est-ce que s'il gagne la Coupe d'Europe, il n'a pas tout intérêt à partir justement et à laisser cette image à Marseille?
Ça, c'est une vision très réductrice de ta part. Heureusement que les entraîneurs ne pensent pas comme ça. À 70...
Aimé Jacquet part sur une finale de Coupe du Monde.
Excuse-moi, Aimé Jacquet, il a entraîné tous les meilleurs clubs en France. Il a eu des résultats aussi, rappelle-toi. Tu étais très jeune avec Bordeaux, avec ceci. Et Aimé Jacquet, il est parti en effet par la grande porte. Jean-Louis Gasset, on ne peut pas dire qu'il a eu des émotions très fortes avec des clubs où il était entraîneur numéro 1.
Qui voudrait remplir même en remportant l'Europa League. Non, parce que quand je vois toutes ces conférences de presse depuis son arrivée, ça a été un petit peu les montagnes russes, quoi. On est passé par les émotions.
Il parle toujours comme ça, mais Manu, toi,
mais je pense qu'il a bien conscience qu'à cet effectif-là, alors si.
Il faut tout changer, toi, pour toi, Marseille.
Mais, parce que si on suit ton raisonnement, imagine, comme tu dis, il gagne l'Europa League, ça veut dire que l'année prochaine, ils sont qualifiés en Champions League.
Oui.
Les problèmes qu'on a rencontrés cette saison, ils vont se répéter l'année prochaine, parce que Marseille. Et quand même, il me semble qu'ils sont endettés. Ils ont besoin aussi de vendre des joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs
qui vont vendre marchandes.
Mais c'est ce que je te dis.
Oui, mais t'as une entrée d'argent avec la Ligue des Champions.
Avec la Ligue des Champions. Oui, d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont, pour moi, relativement insuffisants quand tu dois porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais.
Donc t'es d'accord avec moi, il faut remettre de l'argent,
en termes de talent et en termes de personnalité.
Mais si tu prends ton raisonnement à l'inverse, imaginons ils ne gagnent pas la Coupe d'Europe et ils terminent même pas dans les places européennes. Mmh. Donc ils repartent de zéro avec un nouvel entraîneur. Mmh. Tu peux pas te dire je reconstruis un effectif, je le réduis en termes de nombre. En revanche, je conserve la qualité. Et pourquoi c'est pas possible?
Parce que quand tu joues tous les trois jours avec la.
Mais tu joues pas tous les trois jours si t'as pas de Coupe d'Europe, t'as un championnat à 18. C'est ça,
le truc. Ah oui, c'est pour ça.
Tu peux te dire, j'ai un effectif plus restreint, mais de qualité. Enfin, c'est tout à fait possible. Oui. Et l'Orient adore ce genre de mercato.
Moi, je suis plutôt inquiet, moi, pour l'OM. Hmm.
Bon. 18h12 sur RMC. Parlons-en avec Greg, qui est un supporter de l'OM qui nous a appelé pour parler de ce sujet. Salut, Greg.
Salut, Greg.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bienvenue, Greg.
Bon, est-ce que Marseille doit tout chambouler, Greg, alors?
Ben. Il y a un sacré chantier quand même. Déjà, la première chose à prendre, c'est déjà un entraîneur qui va après construire son groupe avec ses idées. Mais bon, vu l'effectif qu'on a eu cette année, la pauvreté d'effectif, c'est quand même un petit miracle qu'on soit en demi-finale d'Europa League. Ouais. Quand on voit le niveau technique des joueurs,
on est d'accord.
Bon, après, on n'a pas été épargné par les blessures, certes, mais les niveaux techniques des joueurs, cette année, Longoria et son équipe, je pense qu'ils se sont salés sur le recrutement, quoi. Et d'être là, c'est un petit miracle d'être en demi-finale. Je pense pas qu'on soit qualifié. Je pense pas qu'on va être qualifié en Europe cette pour l'année prochaine.
Tu seras qualifié que si tu gagnes l'Europa League.
Oui, si on gagne l'Europa League. Mais bon, les gars, on est encore loin là.
Attends, Benoît, excuse-moi, je te coupe, mais Benoît, tu peux pas me dire la qualification européenne. On parle de la Conference League à Marseille.
Ah oui, mais c'est une Coupe d'Europe, Jérôme.
Ah d'accord.
Oui,
okay,
vu la
d'accord,
situation du club.
Donc excuse-moi de penser que en effet, dans mon dans ma façon de voir les choses, où il faut tout bouleverser et tout changer. Je prends pas compte de la Conference League ou pas la Conference League, parce que pour moi c'est une tannée. Quand tu t'appelles Olympique de Marseille, tu peux pas construire juste parce que tu fais la Conference League. Tu vois, t'es d'accord avec moi là-dessus?
Je suis d'accord avec toi, même si c'est une compétition qui peut te procurer des émotions.
L'année prochaine, les supporters de l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, les dirigeants. Tu veux que je te dise comment ils vont aborder la Conference League l'année prochaine? Ils vont dire, mais priorité au championnat. Nous, notre objectif, c'est de finir dans les quatre, la Conference.
Non mais les gars, il y a 2-3 ans, on a fait la conférence League, ça nous a quand même porté des émotions. Exactement. On a vibré, on a fait des demi-finales.
Exactement.
Voilà, moi j'étais au stade et tout, ça reste quand même l'Europe. Oui, après les gars, se qualifier en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on va faire nous en Ligue des Champions? Quand on voit le niveau.
Non, mais arrête, tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas parler comme ça. Je suis désolé, arrête.
Attendez les gars, 30 secondes. Est-ce que vous avez vu les matchs
Vous regardez Real, vous regardez City. Oui. Mais c'est pas le même sport.
Non, d'accord. Non, mais tu me parles des meilleurs.
Pas le même sport.
Non, mais attention.
Le niveau technique.
Mais non, mais tu me parles des meilleurs clubs européens. On est d'accord. Marseille est pas dans cette catégorie-là. Mais voilà. Entre les 10 meilleurs clubs européens et le 11e et le 30e, me dis pas que Marseille, il peut pas s'infiltrer là-dedans. Regarde, je te prends l'exemple juste. Type, la Real Sociedad, ils finissent premier du groupe de Champions League.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Marseille, avec le public, avec la ferveur, ils sont pas capables de faire ça.
Ouais, mais attendez, la ferveur passe un moment. La ferveur, c'est bien beau, mais après, c'est des mecs qui sont sur le terrain.
Mais même en termes de talent, et de moyens, quand tu vois la. Non, mais je suis d'accord avec toi.
C'est des joueurs professionnels. Ils n'arrivent pas à faire un contrôle, une passe.
Eh ben, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si les dirigeants et si le président, il va te recruter Faris Moumbania au mercato d'hiver. Là, on est d'accord.
Il y a pas que lui, parce qu'on peut parler sur toutes les lignes.
Mais bien sûr.
Vous avez vu la compo qu'on a affichée à Toulouse.
Ouais.
Est-ce que vous avez vu la
compo? Mais bien sûr qu'on la voit, la compo.
Est-ce que vous avez vu sur les matchs, encore sur le banc, les joueurs qu'on a? On fait jouer des jeunes. Après, je comprends bien, mais c'est pas normal qu'à l'Olympique de Marseille, on n'est pas de banc, on n'est pas de joueurs.
Mais t'as même pas une équipe type où ça vaut le coup. Je suis désolé, là tu me parles de certains joueurs. En effet, le milieu de terrain. Mais le pire, c'est que celui qui a les clés du jeu, c'est Harit. Et moi, j'entends même, il y a des mecs aujourd'hui qui ont été des grands entraîneurs et qui ont été des grands joueurs et qui sont consultants et qui arrivent quand ils commentent un match olympique de Marseille à te dire ah j'adore Harit, il est magnifique Harit. Harit, il te donne pas une balle de but, il marque pas un but, mais le mec il est fantastique. Mais c'est incroyable de tenir ces discours-là. Je suis désolé.
On a été étonné cette année, c'est que tu commences une saison où t'as encore Balerdi, tout le monde lui a craché dessus. C'est ton joueur titulaire que tu as plus utilisé dans la saison.
Je vais te dire, Greg, l'année prochaine. Alors bien sûr que je te dis il faut virer tout le monde. Non, il y a des joueurs qui vont rester. En effet, non, il y a des joueurs qui méritent. Ce que je veux dire, Kondogbia, t'as intérêt à le garder. Avec un début difficile, mais là ça va mieux. Aubameyang devant, c'est la même chose. Derrière, tu le dis, Balerdi, ça te fait déjà la colonne vertébrale. Mmh. Elle est un peu bancale cette année, on est d'accord, mais ça c'est déjà pas mal. Tu as le gardien à changer parce que pour moi c'est pas un gardien digne d'un OM qui doit viser très haut.
On est d'accord.
Et après autour, tu pourras quoi? Regarde Klose. Je sais pas s'ils vont le vendre Klose, mais Klose c'est quand même pas mal. Tu vois, il y a des joueurs. Veretout. Moi c'est dur. Je suis dur avec Veretout parce que j'attendais autre chose de Veretout, mais ce qu'il fait c'est quand même pas mal par rapport à d'autres.
Oui, oui. Il court beaucoup, mais alors techniquement, tu vois encore le match là contre Nice.
Ça fait mal à la tête.
Le ballon qu'il perd.
Manu.
Le mec, il est international. Faut se remettre un peu aussi les choses dans
international.
Il a fait la Coupe du Monde quand même. Mais le mec, le nombre de ballons qu'il perd.
Après, Manu, pour toi, la priorité, c'est de changer l'effectif ou l'entraîneur?
J'ai pas compris.
Non, je pose la question, Greg, à Manu, justement, pour savoir.
Changer quoi, l'effectif?
Si la priorité, c'est de changer, d'aller chercher, quoi qu'il arrive, un entraîneur compétent, de construire
l'équipe. J'ai presque envie de te dire, et je réponds à côté, que. Je pense que l'année prochaine, ça devrait être une année de transition pour l'Olympique de Marseille. Et en ce sens-là, moi, j'aimerais que l'Olympique de Marseille participe pas à de Coupe d'Europe pour pouvoir se reconstruire avec un vrai effectif, tu vois, et jouer le championnat à fond.
Ça va être le cas cette année.
S'ils sont encore qualifiés pour une Coupe d'Europe et qu'ils doivent jouer avec cet effectif-là, ils vont se planter une nouvelle fois. Ils n'auront pas les objectifs. Ils vont s'endetter. Ils vont faire des coups foireux sur les transferts.
Là où je te rejoins, c'est s'ils font la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League ou si ils sont qualifiés en Europa League à l'arrivée par le biais du championnat. C'est quasiment impossible par le biais du championnat, on est d'accord. Donc, ils vont se qualifier, s'ils se qualifient dans le meilleur des mondes par le championnat, la Conference League, me dis pas que c'est ça qui va te cramer.
Conference League, ils ont pas l'effectif pour jouer tous les trois jours, ils ont pas l'effectif. Et d'ailleurs, s'ils font venir un nouvel entraîneur, qu'il en profite justement, s'ils ont pas de Coupe d'Europe, pour pouvoir une vision sur 2-3 ans, tu vois.
Oui, mais sauf que, attention, le nouvel entraîneur, là, on parle de Fonseca, il y a des grands noms qui sortent.
Et pourquoi Fonseca partirait de Lille s'ils sont qualifiés en Champions League?
En plus, Fonseca, s'il part, ça veut dire que c'est pas bon signe, c'est pas un message un bon message envoyé aux supporters de Lille.
Bah oui,
c'est-à-dire
même
que
au club.
Ça veut dire que
c'est possible, mais tu vas dans un club qui ne l'est pas.
Bah, ces joueurs majeurs, ils vont partir, ça veut dire. David va partir, voilà, Yuro va partir, Chevalier va peut-être partir, et il y en a d'autres qui vont être baptisés.
Comme souvent
parce
à Lille, hein.
Parce que Zegrova, il va avoir du monde aussi. Quid de Cabella, qui est en fin de carrière, est-ce qu'il va rester? Tu vois, donc en fait, il y a plein de joueurs qui vont se poser des questions, et c'est pour ça que l'entraîneur, il veut pas s'inscrire dans la durée à Lille. Mais pour venir à Marseille, parce que Fonseca, attention, il a une grosse cote européenne, hein. Oui. Il a des clubs italiens
en,
aussi.
En Angleterre,
hein.
Oui.
D'accord, on parle aussi de Conceição, par exemple, à Marseille. Oui. Mais tu crois que ces entraîneurs-là, ils viennent sans moyens? Ils viennent avec cet effet effectif là, bah en non, plus pour bricoler.
Trois entraîneurs qui ont jeté l'éponge du côté de Marseille ces dernières années pour les mêmes raisons.
C'est pour ça. Donc, si tu fais pas le grand bouleversement, et que tu mets pas la main à la poche et que l'actionnaire met pas la main à la poche, je peux te dire que les grands entraîneurs, tout ce qui est annoncé, il y a personne
mais
qui va venir.
On n'a pas la puissance financière pour sortir chez qui en permanence. Moi, je suis pas convaincu de ça du tout, quoi. Tu vois, bon, ça va, il est pas à plein quand même.
Aussi
on a
se
vu
dire
les chiffres.
Le projet marseillais reste excitant malgré tout. Hein,
pour les clubs qui veulent jouer la plus grande coupe d'Europe, bah, avec les investissements qu'ils font chaque saison, qui se renforcent à chaque fois à coup de dizaines de millions d'euros en permanence.
Là où t'as raison, Manu, il faut recruter malin. En effet, tu n'auras pas l'essence financière, si tu veux, des grands clubs.
Ça a été le cas pendant des années. Là, dernier mercato, ça a été n'importe quoi du côté de l'Olympique de Marseille.
Mais oui, mais alors, donc, si tu continues à faire du grand n'importe quoi, on est d'accord qu'ils ne méritent pas.
C'est pour ça que je pense que ça ne serait pas leur rendre service de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Je pense qu'il faudrait reconstruire sur 2-3 ans avec le nouvel entraîneur qui va venir.
Oui, mais à Marseille, tu sais que tu peux pas avec la pression gars, populaire, t'as pas le temps.
Ça veut dire
tu le sais très bien, et c'est pour ça que c'est pour ça que les joueurs ne se rendent pas compte quand ils signent à Marseille. Je suis désolé. Souvent, au bout de 3 mois, on va loin dans les critiques parce que c'est l'OM, parce que ils attendent que le mec qui a marqué l'histoire du football européen, un peu comme Aubameyang, marque des buts tout de suite quand il met le maillot de Marseille. Sauf que t'as vu comment il s'est fait descendre dans ce parce que c'est ils en ont aucun d'Aubameyang, mais heureusement qu'il a réussi à s'adapter, à s'acclimater, et tant mieux pour l'Olympique de Marseille, il faudra s'en servir l'année prochaine. Mais quand tu me recrutes des joueurs qui sont pas au niveau, qui jouent dans des championnats norvégiens, danois ou je sais pas où, et qui brillent à moitié dans ces championnats-là et qui arrivent, et que tu les mets demain comme Faris Moumbania ou d'autres joueurs qui sont arrivés, bien sûr que c'est voué à l'échec. Parce que ces mecs-là, ils se font descendre parce qu'ils sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille, qui doit mettre l'OM tout là-haut. Parce qu'avec ces joueurs-là, tu vas te les manger, hein. Il est recruté, alors peut-être 8 ou 10 millions d'euros, mais ces mecs-là, ils vont pas partir comme ça. C'est soit tu leur fais un chèque et tu leur dis, écoutez, on s'est trompé et là, on accepte de perdre de l'argent, beaucoup d'argent, sur ces cas-là parce que sinon, ils partiront pas. Soit tu te les gardes et pour moi, c'est un frein pour l'évolution de l'Olympique de Marseille. Regarde Vitinha. Vitinha, il a été prêté.
Oui.
Prêté, option d'achat obligatoire ou pas?
Oui.
Ouais, obligatoire.
Ouais, ouais.
Je suis pas sûr qu'elle soit totale.
Si, je crois.
Voilà, mais en tout cas, il va vite revenir, hein, si c'est pas obligatoire. Ah, oui, donc. T'imagines quand même tous les dossiers que t'as à traiter. Alors,
j'entends tout ce que tu dis. Après,
Mehdi Benassi, il a intérêt à se reposer, parce qu'il va avoir du boulot.
Même si t'as pas de Coupe d'Europe, ça reste hyper attractif.
Mais
pour
c'est attractif. Le problème, c'est que tu peux pas aujourd'hui.
Parce que vous dites, oui, les grands noms qu'on cite, ils seraient pas intéressés par l'OM. Je suis désolé, mais.
Tu peux pas dire.
Ça reste un nom du football.
Je crois que t'es. Ouais, enfin, t'es amnésique quand même.
Pourquoi?
Regarde ce qui s'est passé ces 3 dernières années, quoi. Que ça soit sur le banc, mais aussi au niveau des joueurs, de l'effectif. Ça a été la grande lessive en permanence.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Quel message t'envoies? Malgré l'attractivité de Marseille.
Ils ont toujours réussi à attraper des entraîneurs.
Le fantasme qui est autour de Marseille. Mais derrière, moi, je suis entraîneur ou joueur et on me contacte pour venir à l'Olympique de Marseille. Je me pose 2 fois la question de savoir si je viens, tu vois.
Moi, où j'allais dans ton sens avant, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec les clubs. Regarde, je te donne l'exemple. Il y a quelques années, tu te posais même pas la question quand tu étais un entraîneur avec la ferveur. Tu veux entraîner Marseille ou Monaco, tu as le choix, tu signes à Marseille. D'accord, avec la ferveur, on est d'accord. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Fonseca imagine demain il a le choix, il va signer à Monaco.
Donc question simple.
Donc ça veut dire que déjà l'attractivité, tu en as pris un petit peu, t'as pris un gros coup dans la tronche avec les mauvais résultats et la mauvaise gestion des entraîneurs
sur
les dernières années.
Si tu mets à la place de Fonseca, Aize ou Conceição, Marseille t'appelle, t'es pas intéressé.
Ces entraîneurs-là, c'est des entraîneurs qui ont déjà gagné, qui ont montré des choses. Donc
il a gagné quoi, Francaise?
Francaise, il a gagné le respect du football français.
Non, mais je suis d'accord.
Alors Francaise, c'est différent parce que tu peux pas le mettre dans la même catégorie que
Conceição.
C'est
des cibles.
Justement, je vais te répondre par une question parce que tu as cité de noms d'entraîneurs. La question que je te pose, quelles sont les garanties que l'OM pourrait leur proposer?
Et ouais.
Bah, les garanties, aucune. C'est justement ce que vous disiez Mehdi Benatia cette semaine quand il est venu chez vous, c'est qu'on veut un entraîneur sur le long terme et reconstruire un projet avec lui.
Mais d'accord, mais
je te dis que je viens
sur le long terme,
mais j'entraîne
alors que
Marseille
ça fait depuis 4 ans que c'est la base
d'imposer
d'entraîneur.
Mes idées, mon travail.
Mais comment tu peux dire des choses comme ça en sachant que ça fait des années que les entraîneurs se cassent, ils jettent l'éponge.
Bah peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs.
Moi,
c'est le discours en tout cas.
Moi, je vais te dire, ce genre d'entraîneur là, ils sont en droit d'attendre que il y ait un effectif.
Je suis désolé, t'es Franck Est, tu t'écoutes quand Marseille t'appelle, j'imagine.
Mais dans les Francaises,
il est dans un cocon à Lens, il travaille très très bien, il va aller dans l'enfer de l'Olympique de Marseille en sachant qu'il va être dans une machine à laver du matin au soir.
Est-ce qu'il n'a pas atteint le maximum ?
Franchement,
va pas aller chercher de plus.
Moi, je vais te dire, vu la personnalité de Franck, et il fait un travail remarquable à Lens, et Manu a raison. Quand t'es bien à Lens avec un, voilà, je pense que ça collera pas. Il faut un entraîneur à poigne, un peu plus de poigne, qui a de la personnalité et qui arrivera à dire merde aux médias ou aux supporters quand ils lui mettront la pression. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Bah. Et en effet, quand tu me parles de Conceição, je pense que lui, il a peur de personne. Il y en a un autre qui a fait des très belles choses avec l'Algérie il y a quelques années. C'est Djamel Belmadi qui a joué à Marseille, qui a joué à l'OM. Mmh. Tu vois, qui a attaché à l'OM. Je pense que, en effet, il a été décrié avec la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il a envie de reprendre un club. Mais ça, attention. Moi, je te parle que Djamel Belmadi, dans un projet comme ça, peut-être que t'as pas besoin de lui vendre en effet un grand bouleversement d'effectif parce que
il y a Jean-Pierre Papin aussi.
Parce que non mais la fibre.
Pourquoi tu rigoles,
il est entraîneur. Parce qu'ils ont même pas voulu quand il y avait le poste qui était vacant.
C'est ce que je te dis. Pourquoi les chercher toujours à l'extérieur alors que t'as pas l'argent, t'as pas les joueurs pour attirer.
Non mais il faut quelques références, il faut avoir gagné en tant qu'entraîneur. Quand t'es à l'OM, je suis désolé, t'es entraîneur de l'OM, il faut déjà avoir un petit CV, avoir gagné un petit CV, façon de parler. Il faut avoir un CV, il faut avoir gagné des grands titres, que ça soit avec une sélection. Avoir des
clubs. Ça n'a pas été le cas des derniers entraîneurs à Marseille. Hein.
De quoi c'est pour
d'avoir gagné des grands titres.
Oh, bah, excuse-moi, Sampaoli, il avait gagné des grands titres, il a entraîné des grands clubs.
Tudor, c'était pas le cas. Gattuso, c'était pas le cas.
Et bah ouais, à l'arrivée, ça a donné quoi
Marcelino, c'était pas le cas.
Mais ça a donné quoi
Bah oui, bien sûr. Oh, ça fait
et puis pour revenir à ce que tu viens de dire, il faut un entraîneur à pointe qui colle avec l'Olympique de Marseille, l'ADN de cette ville. Ça a été le cas sur les trois derniers entraîneurs. Et ils ont tous
exactement
jeté l'éponge. Ils sont tous cassés.
Bon, mais pourquoi?
Bon, tiens, merci Greg. Qu'est-ce pour participer au débat avec
leur
nous?
Merci Greg, en tout cas.
On leur a promu la lune et au final, ils se sont plantés. Quoi,
et
tu
messieurs, on revient dans un instant. Le procès. Le procès d'un de vos confrères. Habib Bey sera l'accusé du soir. Accusé de manquer de sincérité sur le PSG. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme de ce vendredi soir. Oui, on se régale avec Manu Petit, avec Benoît Boutron, avec Julien Cazard dans 15 minutes. Ne ratez pas le moment de Julien Cazard, il est en grande forme en ce moment pour se détendre avant de lancer ce week-end de Ligue 1. Oui, 31e journée de championnat de Ligue 1. Oui, ça va être génial, mais là, ça va être l'affrontement. Et là, ça va être chaud.
Ouais, le procès qui arrive dans un instant, 19h, le multiplex. Et puis l'événement sur RMC, vous le savez. Dans 3 mois, jour pour jour, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Moment fort aujourd'hui avec la passation de la flamme à Athènes entre la Grèce, la flamme est partie d'Olympie il y a 11 jours, et la France. Et ça se passe en ce moment sous les yeux de Julien Richard. Salut Julien.
Salut Benoît, salut à toutes et à tous, salut Jérôme. Le soleil est en train de se coucher sur Athènes. On est dans un site mythique, c'est le stade panathénaïque. C'est le stade antique qui avait été rénové en 1896 pour les premiers jeux de l'ère moderne, initiés par le baron Pierre de Coubertin. Sa statue est d'ailleurs à l'entrée de cet immense stade en forme de U, totalement en marbre. La cérémonie a débuté depuis quasiment une heure maintenant. On a eu les dernières relayeuses plutôt françaises, Gabriella Papadakis, la championne olympique de patinage artistique, de danse sur glace, et Béatrice Hesse, ancienne nageuse, 20 titres paralympiques, qui ont transmis le flambeau au dernier relayeur grec, qui a lui-même allumé une vasque ici dans ce stade panathénaïque, une vasque posée en or, en forme de colonne. Et pourquoi je pouvais durer le plaisir? Parce que vous entendez peut-être derrière moi Tony Estanguet. Et Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, est en train donc de donner son discours devant ce stade panathénaïque, et il annonce à l'instant même le nom du premier porteur de la flamme sur le sol français le 8 mai prochain.
Et alors ?
Vous avez peut-être entendu, juste à l'instant même derrière moi, c'est bien Florent Manaudou qui aura l'honneur de descendre du PLM avec la flamme olympique, de poser le pied et de, sur le sol français, d'être le premier relayeur donc sur le sol français. Florent Manaudou, champion olympique à Londres en 2012 sur 50 mètres nage libre. Et la boucle est bouclée finalement pour le nageur licencié au Cercle des nageurs de Marseille, puisque c'est Laure, Laure, sa grande sœur, qui avait été la première relayeuse française à Olympie au moment de l'allumage de la flamme il y a quelques jours de cela. Fin du suspense, la flamme. Ce ne sera pas donc Zinedine Zidane, mais bien
Florent. Et voilà, Manaudou. C'est l'info. Merci Julien. En direct de Brest. Florent Manaudou qui sera le premier porteur de la flamme sur le sol français.
RMC Rotten sans flamme.
C'était impardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites entrer l'accusé.
Et là, on traite un sujet avec des spécialistes. Peut-on conserver son objectivité lorsqu'on commente l'équipe rivale de son club de cœur? Habib Bey, entraîneur du Red Star, consultant Canal+, était l'invité de Génération After hier soir. L'ancien capitaine de l'OM a été questionné sur ses commentaires lors des matchs de Ligue des Champions du PSG. Il avait notamment été critiqué après ses commentaires sur le but de Benzema lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris et le Real. Écoutez.
On m'a reproché par exemple sur le match du Real de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé, quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG. Si vous commentez le but de Benzema avec la, oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous faites pas correctement votre métier. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain, et c'est pas mon rôle.
Voilà, Bey qui a conclu en indiquant qu'il serait très content si le PSG gagnait la Ligue des Champions. Alors ce soir, Bey est accusé de manquer de sincérité par rapport à ses commentaires sur le PSG, accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Habib Bey défendu par celui qui commente les matchs du PSG sur RMC Sport, Manu Petit.
Bonsoir, j'étais le seul.
Et le verdict sera rendu par un supporter de l'OM, Pierre, qui nous rejoint, qui a composé le 32-16. Salut Pierre.
Oui, bonjour à tous, bonsoir.
Pierre, on te laisse écouter les plaidoiries. La parole est à Monsieur Roten. Votre position justement sur les justifications d'Habib Bey alors?
Bah déjà, je pars de loin parce qu'avec monsieur le juge qui est supporter de l'Olympique de Marseille, il va falloir que je sois bon. Mais en fait, c'est très simple. Moi, Habib, quelqu'un que j'apprécie dans tous les cas. J'ai un problème avec cette sincérité, en effet, parce que il faut pas faire semblant quand t'es à l'antenne, quand t'es devant un micro comme ça a été le cas hier, où t'es à froid. Tu peux expliquer les choses, tu peux nous expliquer que tu fais preuve d'objectivité, et c'est notre rôle à tous, parce que en effet, quand t'es très attaché à un club comme l'Olympique de Marseille, comme le Paris Saint-Germain, ce qui est mon cas, lui du côté de l'Olympique de Marseille, automatiquement tu penches d'un côté quand les deux se rencontrent, ça c'est clair. Après, en termes d'analyse à froid, pas à chaud, à froid, ce que je fais moi ou les après-matchs dans l'after ou dans mon émission le lendemain des matchs, là tu peux faire preuve d'objectivité en disant en effet le foot français, Marseille représente le foot français pour un Parisien et c'est bien de les voir là et on est content quand ils font des bons résultats en Coupe d'Europe, et ce qui me paraît tout à fait logique. Mais c'est différent quand tu commentes le match en direct, parce que là t'es obligé de faire passer des émotions. Alors il y a l'analyse technico-tactique, il n'y a pas de problème, et c'est pour ça que les consultants, les anciens joueurs, on est là, parce que sinon il n'y aurait que des journalistes qui, eux, ont appris à transmettre ces émotions-là et à commenter les matchs. Et en effet, là, il répond à cette question-là au bout d'un moment, il a raison, c'est pas son rôle. Par contre, on est souvent, et je suis passé par là, dans l'excitation, que ça soit avec le PSG ou un autre. J'ai commenté l'Olympique Lyonnais aussi. Pourtant, j'ai pas des attaches à Lyon. C'était un club français en Coupe d'Europe. J'essayais de faire vivre les émotions parce que j'avais des émotions, j'avais une passion. D'accord? Et donc ça, tu le dis. Et en effet, quand Habib commente les matchs du Paris Saint-Germain, il transmet pas cette passion-là, cette émotion-là. Contrairement à Monsieur Petit, qui lui commente le Paris Saint-Germain. Et il le sait, et c'est pour ça que j'ai bien envie de l'entendre défendre monsieur Habib Bey, parce que les émotions, il les transmet, il vibre pour le club français, il l'a dit, il vibre. Alors à l'excès aussi par moment, mais il vibre.
Non.
Moi ce qui me désole, c'est que Habib, il est très contradictoire dans ses propos. Hier, il nous dit moi mon rôle c'est pas de transmettre ces émotions là. Et puis après, donc il dit c'est pour ça que sur le but qui qualifie le Paris Saint-Germain de Mbappé, le dernier à Barcelone la semaine dernière, il dit pas un mot. Pas un mot, pas une analyse, même une analyse technico-tactique, il la fait pas. Étonnant. étonnant pour quelqu'un qui est pour un club français, comme il le dit, est passionné et objectif. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il dit ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du journaliste et je l'ai laissé faire. Par contre, il nous explique que sur le but de Karim Benzema, en effet, qui élimine le club français, même à Bernabeu, là, il doit célébrer. Et là, il se fait rattraper par les émotions. Mais alors, Habib, je comprends pas. Je croyais que tu devais faire abstraction et pas transmettre ces émotions-là. Mais par contre, quand c'est contre Paris, tu transmets ces émotions-là. Mmh. C'est pour ça que pour moi, il est pas sincère là-dessus. Et encore une fois, je le défends parce que je le comprends.
Ouais.
Je le comprends parce que moi, si j'avais été à sa place, si j'avais été à sa place au commentaire,
je l'assumerais.
Je dirais à mes patrons, en effet, si vous voulez que je transmette les émotions pour les supporters de l'Olympique de Marseille, avec moi, ça va être compliqué. Mais il est capable de le dire et on va pas lui en tenir rigueur. Au contraire, aujourd'hui, les critiques, elles fusent.
J'ai pas compris.
Les critiques, elles fusent parce qu'il nous dit l'inverse. Mmh. Et moi, ça, je comprends pas. Pourtant, c'est quelqu'un, en général, qui est honnête.
Ok.
C'est un monologue
Monsieur
ou...
Petit, allez-y.
J'ai pas bien compris, en fait. C'est l'accusation. Vous l'accusez
de manquer de sincérité.
De manquer de sincérité.
Bah, oui. À par rapport à ce qu'il a dit hier.
Est-ce que tu as déjà commenté, lorsque tu es en poste de commentaire, est-ce que tu as déjà commenté un match de l'Olympique de Marseille?
Ben non.
Jamais. Et t'as jamais voulu?
J'ai pas voulu.
Comme Eric Dimeco, on est d'accord.
Eric Dimeco l'a fait. Il a commenté le PSG jusqu'à
un moment donné. Il a dit j'arrête parce que.
Et donc il a fait preuve de sincérité.
Je connais aussi des anciens joueurs en Angleterre qui ne veulent pas commenter quand ils ont joué à Liverpool, c'est Manchester.
Et ça, les rivalités sont exacerbées.
Oui,
Manu, ça peut se comprendre.
Et je le comprends tout à fait.
Et tu ne peux pas le dire?
Comment?
Toi, tu le dis. Moi, je l'ai dit. Eric l'a dit. D'autres en Angleterre, comme tu le dis, le disent. Pourquoi lui, il ne le dit pas?
Parce que ça irait à l'encontre de son employeur et de sa mission dans son rôle de consultant. À moins qu'il aille voir ses responsables en disant ben moi je veux plus commenter le Paris Saint-Germain.
Alors
là, c'est différent.
On te met pas sur les matchs du PSG. Ça, c'est peut-être autre chose.
Aussi. Mais quelque part, bon, moi, tu parlais de moi. Moi, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je n'ai ni joué au Paris Saint-Germain, ni joué à Marseille. Donc, je peux avoir une approche neutre et surtout, moi, je suis très chauvin. Quand c'est une équipe française qui joue sur les scènes européennes, je suis très chauvin. Même quand il s'agit.
C'est patriote, quoi.
Oh, toi, tu vas pas commencer.
Voilà, je vous invite au podcast il y a 15 jours.
Toi, tu vas pas commencer, toi.
Parce viens me le dire en face.
Tu sais quoi?
Viens me le dire en face.
Vous allez mettre en randonnion tous les patriotes.
Oui, oui, oui.
Et bon. Je vais vous foutre des tartes,
oui,
tu vois.
T'aimes quand on est en randonnion.
Ah non, mais ça, non. Tu vois, il y a des mots, tu vois, ça passe pas. Bon. Donc, pour revenir au truc. Moi, pour moi, c'est faire beaucoup de bruit pour rien du tout, en fait. C'est un verre d'eau, c'est rien du tout. Donc, quelque part.
Mais quand ça dérange les, Manu, je suis désolé. Ben, après, quand ça dérange les supporters du PSG.
S'il était vraiment cohérent, si je suis à sa place, je vais voir mes employeurs en disant, moi, je veux plus commenter le PSG.
Mais voilà. Mais alors, il aurait le droit de le dire. Moi, hier, franchement, moi, Habib, il peut.
Il a peut-être peur de la communication que ça pourrait engendrer derrière, les conséquences. Aujourd'hui, il est en train de faire du très bon boulot. D'ailleurs, à ce propos,
c'est vrai.
Je félicite son travail et mon pote Steve Marley, tous les salariés du club pour leur monter en Ligue 2. Mais quelque part,
Donc, c'est du calcul.
Oui, pour moi, c'est du calcul. C'est de la manque de sincérité.
Ben voilà.
D'accord.
Donc, il me donne raison.
Ben oui, mais de toute façon, je te l'ai dit avant de faire le débat. Je dis, putain, vous me faites faire des débats, en fait, vous enfoncez des portes ouvertes.
C'est faux. T'as eu ce matin, tu nous as dit, non, moi, je vais le défendre, c'est pas un manque de sincérité.
Mais bien sûr que c'est de la com, c'est un manque de sincérité, parce que si t'es vraiment honnête, il commenterait pas le Paris Saint-Germain. Voilà.
Exactement.
Bon.
Et il le dirait.
Alors, que va faire le juge?
Le juge est dans le caca, là.
Pierre, comment tu rends ton verdict? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je t'entends. Effectivement, ta vision des choses, elle est en tant que parisien, en tant que défenseur du club.
Bah oui.
Le problème, il est plus large que celui-là. Le problème, c'est le problème des commentateurs qui vivent pas l'événement par leur trip. Ça, c'est toujours pareil.
Oui.
Tu vas. Et Habib s'est trouvé quasiment dans la position d'un commentateur de matchs de Coupe d'Europe de pays extérieurs. Habib, c'est ça, il n'a aucune compassion pour Paris parce qu'il a un passé, etc., etc. Je pense que la faute, c'est pas Habib qui l'a. Pourquoi RMC va lui demander, Canal va lui demander de commenter un match
on
du
est
PSG
d'accord.
Parce qu'il considère que c'est leur meilleur consultant et qu'il le met sur d'autres gros
consultants qui font du bon travail.
Techniquement, il est très bon et ça, personne ne le met en doute.
Oui, oui.
Alors, d'ailleurs, tu peux voir que sur le but, il ne répond pas tout de suite. C'est pas lui qui parle au départ. Et après, il sait pas. Et il vante les qualités de Karim parce qu'effectivement, Benzema, il fait une rencontre extraordinaire ce jour-là et il marque des buts terribles.
Mbappé, on a mis des buts terribles ou pas?
Mais bien sûr, terrible aussi. Mais là, tu parles de Habib à ce moment-là. Tu peux pas tout confondre, si tu veux. Il vante les qualités. Là, on parle de Habib qui commente le PSG.
Benzema qui élimine le PSG.
On lui reproche de pas avoir d'empathie pour les Parisiens. Effectivement, il a aucune sur ce coup-là. Pierre. Il a pas d'empathie, mais il a pas à être là.
Pierre, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire aujourd'hui qu'un Marseillais ou un ancien joueur de l'Olympique de Marseille ou un ancien joueur du Paris Saint-Germain ne peut pas commenter l'équipe, sur des matchs à élimination directe où là mais tu dois encore plus transmettre l'émotion. Après les matchs de poule c'est différent.
T'as peut-être d'anciens joueurs des clubs qui sont moins attachés à ces clubs-là aussi.
Je te dis juste que quand tu es attaché et que t'as marqué l'histoire des deux clubs, c'est compliqué de commenter et de faire vivre des émotions chez l'ennemi. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça.
Je pense que c'est comme ça. Il aurait dû avoir la clairvoyance d'aller voir ses employeurs en disant écoutez, mettez quelqu'un d'autre.
Donc il a manqué de sincérité. Voilà. Bravo Manu.
Merci Manu.
Pierre, et c'est donc
merci Pierre.
Manu Petit qui remporte le procès.
Mais non, vous en moi qui ai gagné.
C'était mal parti.
Allez, j'ai gagné, merci.
C'est ça l'histoire. Allez, on se détend dans un instant, le casar enchaîné.
RMC, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, il reste 10 minutes de la première heure, mais vous inquiétez pas, comme tous les vendredis à partir de 19h, c'est notre fameux multiplex pour lancer cette nouvelle journée de Ligue 1. On est avec Benoît Boutron, avec Manu Petit, avec tous nos correspondants après 19h, mais là, c'est l'heure de l'artiste. On y va.
RMC, Roten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Salut les amis. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et le match vedette, tiens, qui n'est pas un artiste de ce vendredi sur Prime Video, c'est Montpellier-Nantes. Duel de la Muerte, le 12e contre le 16e. On a d'y être. Donc Amazon Prime.
Abi Bay. Non, il peut pas
être partout. Non, mais c'est vrai, l'affiche de la 30e journée. Alors, on pouvait pas prendre Monaco et Paris parce qu'ils ont joué mercredi. Ah oui. Après, il y avait Rennes-Brest. Rennes-Brest, c'est quand même c'est le derby entre le 3e et le 7e. La lutte pour l'Europe avec l'équipe de la qui fait sensation. Les mecs se disent ballon. On va prendre Montpellier-Nantes. Ça s'appelle les stratèges. C'est-à-dire qu'ils font un concours avec Canal de celui qui montre qu'il en a plus rien à serrer de la Ligue 1. Mais là, je vois pas, sinon je comprends pas. Les mecs, ils préfèrent voir des contrôles du tibia de Joris Chotard et des relances en tribu de Nico Palois. Alors qu'en face, ça a quand même Del Castillo. Mais rien que Del Castillo. Puis t'as des mecs qui viennent de Corée du Sud pour voir Del Castillo. Je sais pas si c'est lui, mais non, c'est un autre. Allez, sommaire. Del Castillo. Dans cette édition, nous reviendrons sur le sujet qui. Ah, pardon, on me dit qu'un auditeur du 32-16 souhaite intervenir. Allô ?
Oui, allô ?
Ah, mais c'est Zizou ?
Oui, bonjour. J'appelle parce que j'ai appris que Xavi reste au Barça et qu'Allegri reste à la Juve.
Oui, alors, oui ?
Bah, moi, je suis sur le Bayern et Dédé, il reste en équipe de France.
Ben oui, et donc...
Je me disais, comment vous recyclez tous les anciens champions du monde 98 au chômage ? Peut-être qu'il y aura une place sur RMC pour moi.
Ah oui. Ah, et pourquoi pas, on a une place à Roten sans flamme, hein, les jours où Olmeta, il est à la chasse.
Mais qui s'enflamme ?
Roten,
il s'enflamme. Roten. Il s'enflamme de quoi, lui ?
Ben non, mais c'est le nom de l'émission, ça vous dirait d'être dans la team Roten ? C'est sympa, la team Roten, vous seriez un dégât. Allô ?
Pardon, excusez-moi, je vais m'étouffer, là. Pardon, il n'y a pas autre chose ?
Bah, et l'after c'est compliqué, la star c'est Daniel, Moscato Show, il y a déjà trop de gens qui ont l'accent du sud. On a le comptoir d'Estelle, ça vous tente avec Estelle Denis, le comptoir d'Estelle, ça peut être sympa ça.
Ah oui, je l'aime bien Estelle, surtout depuis qu'elle a largué l'autre pimpin là.
Alors en plus il y a une belle équipe, hein. il y a Perico Légas, Fred Hermel,
il y a qui d'autres. Fred Hermel, là, non, j'ai mis 15 ans à m'en débarrasser, là, c'est pas possible.
Non. Bah, sinon il y a les paris RMC avec Charbot. Vous l'aimez bien Charbot ? C'est votre copain. Et... Allô ? Zinedine ? Ah, ça a coupé. Bon, en tout cas, à mon avis, là, c'est dommage. Franchement, je le verrais bien, ouais.
Enfin, le samedi, là. Avec Charbot, il s'entend bien avec Charbot.
Ça vous ferait, ça. Hein.
Bah oui. Hein, faire les paris et les courses.
Ouais. Ouais, t'as raison. Dans cette émission, nous reviendrons sur ceux qui pensent que l'enflure. Non, je veux revenir sur. Alors, on parlait tout à l'heure de Habib. On reviendra sur ceux qui pensent que l'enflammade se généralise dans à l'OM. Je pense pas. Choukriel sur Canal, il s'est pas enflammé, je crois pas.
Oui. Oui. Aubameyang et la barre transversale qui refuse à Aubameyang un but de la
Le mec, c'était pour... Non, c'était pour revenir à la 8ème place. Donc.
Ah, et alors, le but était bon quand même.
Ah bah ouais, il n'y a pas eu but, mais ouais, c'était un but de légende.
Bah oui.
Pardon ? Oh là là, il a dribblé trois mecs avec le tibia, bah c'était magnifique. Il a juste accéléré en poussant la balle. Hein. C'est la défense, c'est Nice.
Ah ouais, non,
mais
ça va pas, non.
Ah, t'es dur.
Non, non, c'est un but de légende, autant pour moi.
Non, pas de légende, mais, bon.
Non, mais par rapport au but de Zidane contre Leverkusen, il est où ?
C'est que je savoir. Juste en dessous.
Moi, je pense que c'est une lumière absolue dans la nuit, je pense.
Ah, dans la galaxie marseillaise.
Ah, le but de Payet. Ouais.
Hier, donc vous en avez parlé, Habib était l'invité de l'after. Mmh. Et alors moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit que sur le Benzema, le but de Benzema, pourquoi il ne célèbre pas ? Parce qu'il dit, lui, et même si un club français est éliminé, il explique pourquoi il ne célèbre pas. Écoutez.
On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé, quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre. Qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG. Non, si non, vous commentez le but de Benzema avec la, oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous faites pas correctement votre métier.
Non, 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 dis pas ça, non, non. Donc en gros, si tu fais le mec déçu sur un but qui est un moment important, bah, même si le PSG métier. Perd, ouais. Bah ouais, tout de suite un exemple de tocard en direct.
Non ! Possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible !
Oh ! Mais ils sont pas, c'est quoi ces tocards, ils font pas leur métier. C'est pas ça qu'il fallait faire. Mais oui, Sergi, dans le cul les Parisiens, c'est ça qu'on veut voir. C'était ça qu'on attendait, bien entendu. Ah, vous savez que l'info du jour, c'est pas ça. C'est la mise à l'écart de Jérémy Pignard. Après son match à Marseille, vous l'avez vu. C'est la crise dans l'arbitrage français. Il y a eu une réunion d'urgence au siège de la FFF, parce que là, ça pouvait plus être possible. Heureusement, les micros de RMC étaient présents à cette réunion.
Bon, les gars, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que l'heure est grave.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe? J'entends rien, quelqu'un a parlé?
C'est Steph, elle dit que vous avez dit les gars alors qu'elle est là et que c'est une fille.
Allez, pardon. Alors, mesdames et messieurs, si je... Bon, encore, qu'est-ce qu'elle a encore? On n'entend pas ce qu'elle dit, là.
Elle dit que vous avez dit mesdames alors qu'elle est la seule.
Ok, bon, je sens quand même plaire, elle. Ah, j'aimerais bien qu'elle soit aussi carrée sur l'arbitrage que pour nous les briser, celle-là n'en serait pas là. Bref, si je vous ai réunis, c'est parce que l'heure est grave. Il y a une bourde d'arbitrage à chaque journée de championnat. La dernière, c'est Pignard, que j'ai dû mettre au repos. Sauf que c'est déjà le troisième. À ce rythme-là, la dernière journée, c'est Steph qui va arbitrer tous les matchs. Quoi ?
Vas-y, je vous emmerde.
Oui, bon, mais ça règle pas le problème. Le problème, c'est qu'on est nul.
A toujours été nul.
Oui, mais là, ça se voit.
Ça s'est toujours vu.
Oui, mais là, il y a les relous des RMC qui nous traquent. On peut pas siffler une touche sans que l'autre peroxydé et sa bande de ringards fassent un débat de 15 minutes.
Et BFM aussi ?
Oui, ils ont pas le temps. Ils sont en dispositif exceptionnel H24 pour l'affaire Kenji Girac. On s'en sort bien.
Mais c'est dégueulasse. Les anciens Chaperon, Croé, Colombo, Derrien, Garibian, Le Dentu, ils étaient largement aussi nuls que nous.
Ouais, mais eux, ils avaient une excuse. Ils avaient pas la VAR.
C'est quoi la VAR ?
C'est rien, Turpin, c'est rien. Tu sais, la télé en bord de pelouse, là, tu crois qu'on l'a mise là pour que le quatrième arbitre regarde scène de ménage ?
Il n'y a pas besoin de trois tomis dans un camion de pizza pour arbitrer, moi je me trompe jamais.
Ah, tu te trompes jamais ?
Non.
L'arbitrage, c'est une affaire d'appréciation, non ?
Aussi !
Mais moi je m'apprécie énormément. Qu'est-ce que je peux m'apprécier ? C'est un truc de dingue, je me kiffe de ouf. Si je pouvais me brûler des galoches, je le ferais.
Ok, super. En attendant, on a décidé pour régler le problème de vous sonoriser pendant les matchs. Comme ça, on pourra entendre vos explications sur les décisions. Yep. Elle a dit quoi encore ?
Elle explique rien.
Ouais, laisse tomber, je crois que c'est pas une bonne idée. Oubliez ce que j'ai dit, on fait comme d'hab.
Ouais, moi je pense qu'on est sauvé. Ça va bien se passer. Ah, pour l'affaire Kenji Girac, on a les derniers détails. Il aurait déclaré : j'ai appris à tirer avec Randall Kolo Muani. Affaire à suivre. À tout à l'heure.
Oh. RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Faut toujours que ça dérape à la fin.
Non, la dernière phrase. Bon, pas avec lui.
Julien revient à 19h45. Rotten contre le reste du monde a gagné une semaine de vacances à la mer, la montagne ou la campagne grâce à Lagrange Vacances. Vous envoyez top au 732-16. Top. Au 7-32-16, 18h57, on revient dans un instant avec Manu Petit, Jérôme Rotten pour lancer la 31e journée dans le multiplex. A tout de suite.
RMC.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.